unique des littératures paysannes, mais Mahmoud Alaya. Adicias Mahmoud.
Adicias, bonjour.
Alors, nous allons estaca parler d'une auto qui nous vient de Normandie, mais si m'en gagne pas.
Oui, nous allons parler d'un ami, un paysan normand qui a aujourd'hui 87 ans. C'est un monsieur qui a passé toute sa vie à élever des vaches en Normandie.
Ce qui semble rien normal.
Oh, c'est normal, oui. Il est né à Octeville-Lavenel, c'est près de Valognes, dans le Cotentin, en haut de la Normandie, là-bas. C'est une famille de paysans, de père en fils, depuis plusieurs générations. Il travaille dans la production du lait de vache et de ses dérivés, fromage, beurre, crème, etc. D'ailleurs, il a obtenu la médaille d'or du Salon de l'agriculture en 1980 pour sa crème fermière. Et il a été surtout précurseur en matière d'agriculture biologique qu'il a pratiquée à partir de 1966 jusqu'à sa retraite, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans qu'il faisait l'agriculture biologique. Et bon, il est venu tardivement à l'écriture. Il m'a dit qu'il a écrit son premier poème à 70 ans. Comme quoi, on peut toujours commencer. Hein.
Jamais, c'est pas trop tard.
Pas trop tard. Et il fait partie, évidemment, de l'association des écrivains paysans, dont je rappelle le site, si vous voulez. C'est www.écrivain-paysan.com. Et sur ce site, on trouve plus d'informations, évidemment, pour ceux qui veulent en savoir plus. Ce Raymond Godefroy est un poète et un écrivain. Et il fait surtout des contes écologiques et fantastiques, des poèmes, des fables, etc. Il a publié les contes écologiques et fantastiques en 1988 aux éditions Corlay. Il a écrit trois histoires étranges en 1995. Aux éditions Paolan, pour lesquelles il a eu le prix Octave Mirbeau de la Fédération nationale des écrivains de France en 1997. Il a écrit là ce livre aussi, Les extravagantes histoires de Grandaru. Grandaru, c'est un personnage qu'il a inventé, c'est en Normandie, qui boit du cidre et puis qui rêve, qui voit des choses extravagantes. Et il a écrit des fables. Alors, un livre où il y a une quarantaine de fables, fables pour les années 2000. On va l'écouter d'ailleurs nous dire une de ces fables. Hein. Mmh. La fable, c'est un art facile pour les lecteurs, mais c'est difficile pour l'auteur. Hein, parce que le rôle des fables, c'est un peu de révéler aux hommes, un peu comme un miroir, cette image d'eux-mêmes que leurs habitudes journalières dissimulent à leur vue. Mmh. Et bon, évidemment, Jean de La Fontaine a donné à cet art ses lettres de noblesse en décrivant la vie quotidienne des gens, notamment les plus démunis de son époque. Et ben, Raymond Godefroy s'inscrit un peu dans cette ligne, dans cette lignée. Et bon, si depuis tous les temps, disons, la nature humaine est restée la même, par contre, la connaissance et la vision du monde ont beaucoup changé ces derniers temps, d'où les fables pour l'an 2000, où l'auteur rappelle un peu les règles essentielles de la vie quotidienne dans la société d'aujourd'hui. Et on peut dire, disons, pour résumer, que la tolérance est l'un des maîtres mots de sa réflexion. Alors, on va l'écouter nous raconter une de ses fables, et après, je raconterai une de ses histoires fantastiques, là, écologiques, qu'il a écrites.
Toujours écologique.
Voilà, écologique.
Le tracteur et l'automobile. Un gros tracteur à quatre roues motrices, fort puissant comme un Luther, souffrait d'une maladie réductrice, sa jalousie pour l'auto du cultivateur. Être soumis aux plus durs efforts, couvert de sueur et de poussière, et le soir abandonné sans confort par les fermiers d'une façon grossière. Tel était ce orque cruel du tracteur, pendant que la belle séductrice, sans avoir le moindre détracteur, était choyée par sa conductrice. Elle l'essuyait de la moindre tâche. Lui restait sale et sentait mauvais, et pour toujours soumis à rude tâche par les fermiers le plus qu'ils pouvaient. Un jour qu'ils étaient partis en promenade, il voulut profiter de leur absence pour faire en ville une balade dont il entendait garder le silence. Tout alla bien jusqu'à l'autoroute, les chemins lui étant familiers, mais à partir de là, ce fut la déroute, les voitures s'embouteillant par milliers. En ville, ce fut un vrai cauchemar. Il n'entendit qu'insultes et vociférations de pollueurs, de bouseux, de charognards pour avoir bloqué la circulation. Il repartit bien vite pour sa grange, en méditant sur cette aventure, et, comme quelquefois tout s'arrange, ne fut plus jamais jaloux de la voiture. Il en avait découvert les servitudes dans les difficultés de la circulation. À chacun la tâche de ses aptitudes, traîner la charrue fut sa consolation.
À qui donc un poème sur la voiture, l'automobile et le tracteur qui revient au plat à l'encore le monde un peu des temps anciens et le monde de la campagne, del campestre et le monde de la ville, le monde moderne. Voilà, c'est ça que il y a dans la l'œuvre de Godefroy, à quoi il y a toujours quelle antinomie, enfin pas antinomie, mais antagonisme entre le campestre et la ville.
Voilà un peu comment les gens de la ville et les gens de la campagne se voient les uns les autres, se respectent, s'aiment ou s'aiment pas, etc. Mm-hmm. Voilà. Et beaucoup de il a écrit beaucoup de fables un peu dans cet esprit. Alors la République des grenouilles, le chou et le colimaçon, les deux pigeons, le laboureur et ses enfants avec une autre version à lui, les insectes et les insecticides, etc.
C'est un peu dans cet
esprit toujours.
Des réactualisa.
Voilà. Il met un peu l'air d'aujourd'hui et les problèmes d'aujourd'hui dans des fables qu'il a écrites, qui sont passionnantes à voir, à lire, à écouter. Voilà.
D'accord. Alors, nous préparons à discuter une fable, Béléon ?
Non, donc dans sa musette, le fantastique et l'écologique sous forme de contes. Mmh. Alors, bon, les contes, ça prend un peu de temps. Alors, j'ai choisi un qui est un peu le plus court, disons, parce que, bon, pour ne pas prendre trop de temps des auditeurs. Et donc, c'est un conte écologique sur mon jardin en folie. Donc, c'est un peu un jardin en folie et le jardinier dans ce jardin, sa position, etc. On va l'écouter, ce conte, pour donner un peu le reflet des travaux, des contes de Raymond Godefroy.
Mon jardin en folie. Raymond Godefroy, extrait de Contes écologiques et fantastiques. Alors, mon jardin en folie. Ah, cette fois, cela ne va plus du tout. Que s'est-il donc passé? Comment ai-je pu dormir si longtemps? Voilà qu'au travers de ma fenêtre, le soleil est au zénith, et je viens juste de me réveiller aujourd'hui samedi, alors qu'après une semaine d'absence, je devais, dès la pointe du jour, travailler au jardin. Sans perdre une minute, j'enfile mes vêtements, et je passe dans la cabane prendre mes outils et, tout en courant, j'arrive dans mon jardin. Une impression de malaise et de désordre indescriptible me saisit aussitôt. Les pommes de terre que je devais buter avaient poussé de façon inconsidérée et s'étalaient dans tous les sens en criant très fort « Chausse-nous en vitesse, nous avons froid aux pieds !» « Minute, leur répondis-je, vous voyez bien que je commence par vous. À peine avais-je donné quelques coups de houe dans un entrelacé de feuilles et de tiges indémêlables, que derrière moi, les salades se mirent à crier à leur tour. « à boire, nous avons faim !»« Tout à l'heure, chacun son tour, » répondis-je. Je venais de reprendre un vrai travail de cauchemar dans les pommes de terre, quand, de tous les côtés, s'éleva une cacophonie de réclamations de plus en plus pressantes. « De l'ammonitrate ! Nous voulons de l'ammonitrate !» hurlaient les épinards. Mais malheureux, vous ne savez pas que c'est une drogue qui dilate les cellules et les sensibilise aux maladies et aux parasites. Et puis, plus on en prend, plus on en a envie. Et c'est la dégénérescence qui vous guette. Nous en voulons quand même pour voir comment cela fait. Mais à ce moment, leur voix fut couverte par celle des haricots qui, du haut de leurs rames, surplombaient tout le jardin. Nous voulons de la place, nous voulons des rames plus hautes. Mais je vous ai mis les tuteurs les plus longs que je possédais, et puis vous pouvez pousser encore, car vous n'êtes pas arrivé en haut. Ça ne fait rien, nous voulons toujours plus. J'allais leur répondre, quand mon attention fut détournée par les cris stridents qui venaient des oignons. « Nous étouffons !» disait-il en pleurant. « Nous voulons respirer, et tout de suite !» Me penchant un peu de leur côté, je vis effectivement que les oignons étaient en passe d'être débordés par les choux, qui devenaient énormes, avaient couvert l'allée avec leurs feuilles d'un vert reluisant de santé et repoussé les oignons en pliant leurs tiges. Curieusement, les choux ne disaient rien, pas plus d'ailleurs que les citrouilles, qui, sans se gêner le moins du monde, étalaient leurs pousses sur toutes les plates-bandes. M'étonnant de leur silence, ils répondirent en grognant sur un ton insolent et satisfait. Stupide question, a-t-on jamais vu les gros légumes se plaindre d'empiéter sur les autres? Nous y trouvons, au contraire, une satisfaction intense. Ce que nous prenons aux autres nous paraît bien meilleur que ce que nous pouvons faire nous-mêmes, et ce n'est pas demain que cela changera. Dégoûté de tant de cynisme, découragé de ne pas trouver la moindre miette de générosité, tant par ceux qui criaient que par ceux qui ne disaient rien, je remis ma houe sur mon épaule pour rentrer à la maison. À mon départ, il se fit d'abord un silence. Puis, l'égoïsme de groupe succédant à l'égoïsme individuel, l'ensemble du jardin se mit à scander d'une seule voix. Nous voulons la liberté, nous en avons assez d'être exploités, nous voulons toujours plus. Tout à coup, sans que je sache pourquoi, je laissai choir ma houe, je fis demi-tour et m'adressant à tout le jardin, de la voix forte d'un grand humain, je dis « Qui est libre ?» Vous devriez savoir que chaque liberté a ses contraintes et qu'il y a autant de contraintes que de libertés. En fait, il n'existe qu'une seule liberté, celle de choisir ses contraintes. Je bêche la terre, je la fertilise avec du bon compost, je plante, je sème, je sarcle, je vous protège contre tous vos ennemis, je veille sur vous. Vous pouvez croître sans souci dans les meilleures conditions. Mais si dur que soit le labeur, si précieux que soit le temps que je vous consacre, il n'y a pas de contrainte pour moi, car je vous aime. L'amour efface la contrainte et la transforme en plaisir. Aimer, c'est aussi une manière de devenir libre. M'arrêtant un instant pour reprendre souffle, une voix nasillarde venue probablement des cornichons en profita pour dire « Ouais, tu nous aimes, mais tu nous manges !» Je repris alors mon discours. Nous sommes tous soumis, que nous voulions ou pas, à la loi de l'univers, qui est celle de la dualité création-destruction. Le règne végétal capte et amasse de l'énergie par la photosynthèse et rejette de l'oxygène par la fonction chlorophyllienne. Le règne animal brûle et consomme cette énergie avec la dite oxygène. Le règne animal, à sa mort, retourne à la terre pour nourrir les plantes et tout recommence. Nul ne peut s'y soustraire. Si vous ne voulez plus de mon travail et de mes soins, ben je vais vous abandonner à votre sort. Préférez-vous être mangé par les cochons? Ils ont une réputation de mauvais jardiniers. Et puis, il est midi, au lieu de vous agiter, vous feriez mieux de vous tourner vers le soleil pour capter ses rayons bienfaisants. Un immense éclat de rire se répercuta dans tout le jardin, qui répéta en chœur sur le même ton « Il est minuit !»« Il est midi !» répétai-je, rouge de colère. « Il est minuit !»« Midi !»« Minuit !»« Midi !»« Minuit !» Tous les légumes déchaînés vacillaient par vagues, comme sous une tempête, et m'étant approché de trop près des artichauts, je reçus de violents coups de pomme dans les flancs. J'étais secoué. Puis j'entendis la voix douce et rassurante de ma femme me dire « Je t'ai secoué pour te réveiller, tu gémissais et tu semblais si malheureux. » Lui ayant en quelques mots raconté tout mon rêve, elle me conseilla, puisque la lune brillait si bien, d'aller faire un tour dans le jardin pour me détendre et retrouver le sommeil. Comme elle avait raison. À l'inverse de tout à l'heure, tout était calme et silencieux. Pendant ma semaine d'absence, tous les légumes avaient poussé avec une générosité extraordinaire. Mon cœur était plein de gratitude. J'étais ému jusqu'aux larmes. Le vrai jardinier communique en silence avec la nature. Il sait ce qui dépend de lui, il sait ce qui dépend de la terre, il sait ce qui dépend du ciel. Il sait aussi que les discours ne servent à rien. La nature ne les entend pas. C'est de l'intérieur de lui-même que l'écologiste interroge l'univers. Et c'est à travers la nature que lui parviennent les réponses. Il met le privilège de l'intelligence au service de la nature tout entière et ne se considère que comme un élément de celle-ci. À l'inverse, l'humaniste, privilégiant l'homme, ne veut voir dans l'univers que son propre reflet et rêve de soumettre la nature à sa science et pour ce faire, la violente. Aucune violence n'étant gratuite, elle s'installe partout et se retourne contre l'homme. L'humaniste violente et ne veut pas être violenté. Ah, je n'aurais jamais cru qu'un bon jardinier devait posséder tant de qualités. L'amour et la bonne volonté ne suffisent pas. Il faut aussi de la technique et de la perspicacité. Et aussi de l'humour, semblait dire la lune, qui, la mine épanouie, avait l'air ravie de m'avoir joué un si bon tour.
Aquí eran las crónicas de literatura paisana presentadas por Mahmoud Alaya.